Merci Eric, bonjour à tous. Les enfants restent avec nous ce matin, donc il y a une feuille que Eleanor est en train de donner aux enfants. Si vous n'êtes pas un enfant, vous pouvez le prendre aussi, c'est surtout pour les enfants. Alors j'ai fait un message qui est suffisamment simple pour que les adultes puissent le comprendre, et donc pour les enfants, ce sera davantage facile aussi. Je vais prier avant d'ouvrir la Bible ensemble, en m'inspirant de quelques paroles du psaume 116. Prions. J'ai fait appel au nom de l'Éternel. Éternel, sauve-moi. L'Éternel fait grâce et il est juste. Notre Dieu est rempli de compassion. L'Éternel garde ceux qui manquent d'expérience. J'étais affaibli et il m'a sauvé. Retrouve le repos, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel au pays des vivants. Merci, notre Père, qu'à tout moment nous pouvons connaître ta bonté, ta fidélité, ta grâce. Nous te prions que ce moment soit particulièrement encourageant pour nous, que nous puissions être enrichis sur le plan spirituel par la richesse de ton caractère, de ta bonté, nous souvenir de ce que tu as fait pour nous et de qui tu es pour nous également, nous tes enfants. Au nom de Jésus, nous te prions ces choses. Amen. La semaine passée, j'évoquais le fait que nous devons appeler l'Éternel notre Dieu. Il ne peut pas juste rester Dieu, il doit être mon Dieu. Et aujourd'hui, on va aller un peu plus loin en précisant qu'il doit être notre berger. Chaque chrétien peut dire « L'Éternel est mon berger ». Vous connaissez ce psaume, bien entendu, bien connu. Mais qu'est-ce que ça implique d'avoir Jésus comme berger, d'avoir notre Dieu comme notre berger? Nous avons profondément besoin, en tant que créature, nous avons besoin d'un berger. Si nous nous sentons coupables, si nous nous sentons faibles, si nous nous sentons perdus, pas dans le sens où on ne sait pas où on est, mais on ne sait pas comment nous allons nous en sortir, perdus. Si nous nous sentons accablés par les difficultés de la vie, nous avons besoin d'un berger, quelqu'un qui prend soin de nous, quelqu'un qui nous dirige, quelqu'un qui nous conduit, mais qui veille aussi sur nous, un sauveur. Je vous invite à lire aujourd'hui 1 Pierre, chapitre 2, première lettre de Pierre, chapitre 2, versets 22 à 25. Le désir que j'ai pour ce message est qu'il nous mette devant Jésus-Christ, le Seigneur, et qu'il augmente notre appréciation de ce berger Jésus. Alors ça commence au milieu d'une phrase, et je fais ça délibérément parce que je ne vais pas prêcher le contexte de persécution, de difficulté des chrétiens à qui Pierre écrivait. Mais je veux plutôt qu'on se concentre purement sur Jésus. 1 Pierre 2, 22, vous l'avez sous les yeux. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ses blessures que vous avez été guéri. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retourné vers le berger et le protecteur de votre âme. Récemment, nous avons eu des prédications sur des longs textes, n'est-ce pas, des longs chapitres de la Bible. Ici, c'est que ces versets que nous allons regarder, mais ces quelques phrases sont riches et profondes. Nous voyons ici Jésus, nous allons le contempler en deux rôles qu'il a. Le premier, c'est le bon substitut. Le bon substitut. Il n'a pas commis de péché. C'est comme ça que Pierre résume la bonté de Jésus. Jamais il n'a oublié de prier pour quelqu'un, ou il a manqué d'aimer quelqu'un qu'il a rencontré. Jamais il a dû s'excuser pour avoir dérapé dans la colère, ou avoir été impatient. Et nous devons réfléchir vraiment à ce que ça veut dire, l'incarnation. Je sais que l'incarnation, on y pense à Noël, Et puis souvent, pendant l'année, on n'y pense plus trop. Mais c'est formidable, l'incarnation. Dieu était réellement présent et présent dans notre humanité. Dieu n'est pas resté au loin. Lorsque Jésus était là, Dieu était présent et il savait de l'intérieur ce que c'est d'être un humain. Et pourtant, pas de péché en lui. Vous savez, si nous élevons l'aspect divinité de Jésus, peut-être que nous allons penser que c'était facile. Ah ouais, mais lui, il était Dieu. C'est pas facile pour lui. Et si nous oublions l'aspect divinité de Jésus, nous perdons la merveille de qui il est. Il nous paraît juste un homme comme nous, un homme meilleur que nous, mais un homme bon. Non, il était Dieu, pleinement Dieu, et en même temps pleinement homme, pleinement comme nous. Et c'est en fait ce qui donne tout son sens à ces versets qui vont suivre, et l'impact de ces versets, c'est parce que c'était Dieu et homme. Alors il commence en disant qu'il n'a pas commis de péché, et puis il va en fait donner quelques exemples de fautes que Jésus n'a pas commises. D'abord la tromperie. Pas d'exagération chez lui, pas de dissimulation, pas de déviation de la vérité. Ce qu'il disait était vrai. Parfois c'était caché, et les uns les autres ne comprenaient pas exactement ce qu'il disait. Parfois il ne disait rien, parce qu'il avait décidé de ne pas dire quelque chose. Mais quand il parlait, parfois il choquait les gens, tellement ce qu'il disait était vrai, il osait dire la vérité. Mais tout ce que Jésus a dit était vrai, vrai à 100%, même quand ça déplaisait aux autres. Vous savez, nous avons besoin de personnes qui vont nous dire la vérité. L'Église est justement ce lieu où nous nous disons la vérité dans l'amour. C'est nécessaire. Ensuite, une autre faute qu'il n'a pas commise, c'est les insultes. S'il y a bien une chose qui caractérise notre communication d'aujourd'hui, c'est l'insulte vulgaire, n'est-ce pas ? Démolir quelqu'un est devenu une façon d'attirer l'attention. C'est presque du divertissement. Voyez un peu ce que disent les réseaux sociaux. Ou dans d'autres cadres, il y a deux rappeurs célèbres en Amérique du Nord qui sont en train de se disputer. Et les gens sont friands de cette dispute, de leur clash. Un dit quelque chose dans un chant qui semble viser l'autre, et l'autre réagit sur les réseaux sociaux pour dire « Ouais, mais je suis meilleur que lui. » Et ça continue. Pourtant, j'étais frappé par cette lecture-là au psaume 15 ce matin. Il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. C'est Jésus. Il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Vous savez, quand Jésus était insulté, il aurait pu faire une réplique qui mette fin à tout. Il avait la sagesse, l'art de manier le langage pour dire la réponse qui tue. Il aurait pu le faire. Mais il ne l'a pas fait. Il a décidé de passer au-dessus de l'insulte. Et puis les menaces. C'est la réaction naturelle, n'est-ce pas, lorsque nous sommes maltraités. Et même quand nous ne sommes pas maltraités, parfois nous nous dépeignons comme les victimes. Nous avons une mentalité de victime et nous nous sentons pris pour cible. Alors on a envie de se défendre. Et qu'est-ce qu'on fait ? Une menace de vengeance, une menace de représailles sévères. Et dans le cas de l'homme, souvent, ces menaces sont un peu vides parce que nous n'avons pas la capacité de faire la rétribution. Mais n'oublions pas que Jésus avait la capacité. Si Jésus voulait réagir, il pouvait. Pierre, qui écrit ces mots, était une des personnes qui avait pris la défense de Jésus. Vous vous souvenez qu'il avait essayé d'attaquer un garde du côté adverse. Un serviteur de côté adverse. Et Jésus lui dit en Matthieu 26, verset 53, « Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» S'il avait besoin, il avait les ressources à disposition. Il pouvait agir, pouvait réagir. Et donc le fait qu'il ne menaçait pas les autres, ce n'était pas par impuissance, c'était plutôt un acte de maîtrise de soi. Quelle bonté, quelle perfection en Jésus, n'est-ce pas ? Alors bien sûr, ce ne sont que quelques exemples. Jésus a fait tout le bien et il a évité tout le mal. Mais voici juste quelques exemples que Pierre nous donne. Et puis il dépeint la bonne attitude de Jésus. Dans la souffrance, verset 23, il s'en remettait à celui qui juge justement. Il s'en remettait à son Père. Et c'est aussi l'attitude qui nous incombe. Verset 17, il dit « Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. » Lorsque Jésus agissait ainsi, il craignait son Père, il avait le respect pour son Père et il s'en remettait à lui. Alors quand tu penses que tu subis quelque chose d'injuste, que quelqu'un dit quelque chose de faux sur toi, que tu es blessé, est-ce que tu peux aussi faire cet effort de dire « Dieu me connaît, il sait qui je suis, c'est lui qui me justifie, et je n'ai pas besoin de dire « non, ce n'est pas moi, etc. » Pas besoin de me défendre, je me remets à celui qui juge justement. Mais cette histoire que Pierre est en train de raconter lorsqu'il pense à Jésus qui s'approche de la croix et qui meurt, ça nous met devant un dilemme. On a compris que Jésus était bon, il était vraiment innocent, il était irréprochable. Et Dieu, le Père, qui est décrit ici aussi, est celui qui juge de manière juste, dit Pierre. Et donc, si Dieu est juste, pourquoi est-ce que Jésus a souffert? Pourquoi Dieu permet-il qu'un homme entièrement innocent souffre la punition qu'il ne mérite pas? Bien, c'est parce qu'il est un substitut. Jésus a porté nos péchés en son corps à la croix. Et donc oui, à ce moment-là, à la croix, il souffrait pour le péché, mais pas les siens, c'était les nôtres. L'idée de substitut est assez répandue aujourd'hui, hein, c'est quand un mauvais joueur sort et qu'on met un bon joueur à sa place. Et c'est un peu comme ça, on était en train de perdre notre match, on était en train de faire une mauvaise vie, et Dieu nous a remplacés par quelqu'un qui est parfait. Lorsque nous étions perdus, Jésus est monté au jeu. C'était aussi familier comme expression aux gens de l'époque, parce qu'ils avaient compris que, dans l'Ancienne Alliance, un agneau, une brebis, un bouc, sacrifié, se substituait et portait nos péchés, nos fautes sur lui. Jésus nous représentait. Avez-vous remarqué la tendance qu'il y a aujourd'hui de chercher quelqu'un pour nous représenter qui soit exactement comme nous? Nous l'avons vu récemment avec les élections, n'est-ce pas? Les profils des candidats, je parle de chaque parti, avaient une panoplie de candidats, très différents les uns des autres. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que les gens qui élisent disent « Ah oui, elle est comme moi » ou « Lui, il est comme moi ». Qu'on trouve dans le parti, dans la liste du parti, au moins quelqu'un qui nous ressemble pour s'identifier avec lui et pour qu'on lui demande de nous représenter. C'est ce que nous voulons, n'est-ce pas? Nous recherchons quelqu'un, un candidat, qui est exactement comme nous. Et si c'est ce que vous recherchez, alors, en fait, Jésus peut sembler assez limité. Il n'est pas une femme. Il n'est pas noir. Il n'est pas belge. Donc, si tu es une femme noire belge, et tu cherches quelqu'un qui soit exactement comme toi, ben, il ne va pas te convenir. C'est pareil avec la tentation. Il n'a pas été exactement tenté comme toi. Par exemple, il n'était pas marié, donc il n'avait pas de belle-mère. Il n'a pas eu 80 ans non plus. Et donc un homme qui, à un âge avancé, voudrait vivre une autre vie, et qui est tenté de quitter sa femme et de s'enfuir avec une jeune femme, il ne peut pas dire que Jésus a été tenté exactement comme lui, n'est-ce pas? Jésus a néanmoins eu toute une panoplie d'expériences humaines qui sont semblables aux nôtres. Il a dû faire preuve de persévérance dans ses engagements. Il a supporté des gens difficiles. Il a été maltraité, il a fait face aux préjugés des autres. L'incompréhension de ses proches vis-à-vis de qui il était. Il aura certainement été tenté par une vie plus facile que celle qu'il a eue, n'est-ce pas? Donc quand la Bible dit qu'il a été tenté à tout point de vue, ce n'est pas qu'il a eu exactement toutes les tentations que nous pouvons avoir, mais qu'il a eu toute une gamme de tentations qui représentent, bien entendu, dans divers domaines, les circonstances que nous pouvons aussi rencontrer. Et il est humain. Il était réellement humain. Et finalement, c'est ça qui le qualifie pour nous représenter, être l'un de nous. Alors ce passage, Pierre est en train de penser surtout à un passage de l'Ancien Testament qui est Ésaïe chapitre 53, qui est un texte bien connu. Et ici, Pierre fait ressortir Ésaïe 53, il est cité trois fois, c'est un peu le commentaire du Nouveau Testament sur cette prophétie de l'Ancien Testament qui parlait de Jésus. Et Pierre voit tous les parallèles qu'il y a entre ce texte et la réalité de Jésus. Je crois que souvent j'ai fait l'erreur en lisant Ésaïe 53 de penser qu'il y a les brebis égarées, c'est nous, et puis il y a le serviteur qui est un homme qui prend la place des brebis. Jésus est un homme, donc ça cadre bien avec cela. Et bien entendu, c'est de lui qu'il parle. Par exemple, quand Ésaïe dit « Nous étions tous des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. » Mais le « lui » dans Ésaïe 53 est aussi un agneau qu'on mène à la boucherie. Pourquoi est-ce que c'est significatif? Parce que ça veut dire que ça nous rapproche, n'est-ce pas? C'est une image, bien entendu, c'est une image d'une personne, un humain. Mais c'est un agneau qui est en train de payer pour des brebis. Un de nous qui est en train de nous sauver, de payer pour nous. Et Jésus, en tant qu'être humain, a pu payer pour nous parce qu'il était humain. Il a pu prendre sur lui toutes nos fautes dont nous sommes coupables. Il est le bon substitut. Mais dans la deuxième partie, Pierre nous montre que Jésus est le bon berger, le bon berger. Regardons à nouveau au milieu du verset 24. Pourquoi Jésus est-il mort à la croix? C'est afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est très simple. La vie avec le bon berger est une vie sainte. Vous savez qu'il y a des personnes qui lisent ce verset à l'envers. Ils disent « afin que, libérés de la justice, nous puissions vivre pour le péché ». C'est comme ça que les non-chrétiens comprennent, n'est-ce pas? Ah, le Seigneur te pardonne tout ce que tu as jamais fait de mal. Tu peux faire ce que tu veux alors. Non. Non, non. Je suis libéré de la punition que mes péchés méritent, mais je suis aussi libéré de la puissance du péché sur moi, sur ma vie. Si je pêche aujourd'hui, c'est que j'ai pris la mauvaise décision de pécher. Je ne suis pas forcé à pécher, comme avant, mon ancienne nature me forçait à pécher. Maintenant, je suis libre. Je peux vivre de manière juste, comme Jésus a vécu. La vie que Dieu veut pour nous, c'est une vie où j'obéis pleinement à Dieu, où j'exprime la sainteté qu'il m'a donnée. Et nous ne vivons plus pour le péché, mais nous vivons pour lui. Là où nous avons perdu beaucoup de notre dignité par le péché, maintenant, avant on parlait de chute, mais maintenant il nous restaure. Il nous élève à une autre vie. Donc nous pouvons dire avec Pierre que nous avons été guéris, rétablis. Je ne pense pas qu'il parle ici de guérison physique. Bien entendu, Dieu est celui qui opère des guérisons encore aujourd'hui. Parfois il le fait par la médecine, parfois il le fait tout seul, sans intermédiaire. Dieu nous guérit quand il choisit de nous guérir. Mais ici, il y a autre chose qu'une guérison. La guérison qu'il nous a promise, finalement, physiquement, ce sera pour la fin, n'est-ce pas, que lorsque nous aurons un corps glorieux et incorruptible. Mais il parle de nous guérir aussi du péché. Parce que le péché nous a tellement affectés que nous sommes affaiblis, mourants et complètement perdus. Cette image du péché, en fait, est très complète dans ces quelques versets. Oui, nous sommes rebelles, mais nous sommes aussi blessés. Blessés par le péché des autres, blessés aussi par le péché dans notre cœur, qui nous fait tant de mal et nous éloigne de Dieu. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Jésus a accepté d'être blessé à cause de nos fautes. Il a été blessé par les conséquences du péché, physiquement victime de l'injustice humaine et de la violence, mais aussi spirituellement frappé par la punition divine. En tant que bon berger, il a souffert pour les brebis. Qui étions-nous? Nous étions des brebis égarées. Comme le dit Ésaïe, chacun suivait sa propre voie. Et c'est ce que nous étions, n'est-ce pas, sans Jésus. Chacun suit son chemin. Certaines vies semblent recommandables. Certaines vies qui sont indépendantes, les gens suivent leur vie et décident de leurs valeurs. D'autres vies semblent scandaleuses pour nous, choquantes. Elles nous dérangent parce qu'elles renversent les codes. Mais tous, d'une part et d'autre, nous vivions dans l'indépendance. Et notre indépendance de Dieu nous amène à être égarés, loin de lui. Malheureusement, quelqu'un peut vivre toute sa vie égaré. S'il refuse de reconnaître sa culpabilité, s'il accuse Dieu et se fait des excuses, à dire « c'est pas moi, c'est Dieu qui m'a mis comme ça, c'est comme ça que je suis », s'il préfère suivre sa propre voie, ben il va continuer à s'éloigner. Mais Dieu veut qu'on fasse l'expérience inverse. Tu t'es égaré, tu t'es éloigné, eh bien reviens. Et l'expérience de chrétien, c'est de retourner, comme il le dit ici, vers le Seigneur. Et la surprise, là, la petite surprise, à la fin de ce passage, c'est que nous pensons que Pierre va continuer à citer Ésaïe. Nous étions tous comme des brebis égarées, mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Mais au lieu de cela, Pierre veut souligner la personne à qui nous revenons. Lorsque nous retournons vers quelqu'un. Et il est, ben voilà, on va lire, le berger et le protecteur de votre âme. Jésus-Christ n'est pas nommé ici, mais c'est bien lui qui est décrit. Le berger prend soin de nous. Il nous récupère, il nous nourrit. Mais aussi le protecteur, l'évêque, il nous surveille, il veille sur nous, il nous garde de tout mal. Et donc aujourd'hui, frères et sœurs, vous avez besoin de quelqu'un qui prenne soin de vous, qui s'occupe de vous. Et je vais vous dire, les gens peuvent vous décevoir. L'apôtre Paul, en 2 Timothée 4, il dit « Personne ne m'a soutenu. » Mais il ajoute après « Le Seigneur m'a fortifié. » Et c'est important qu'on ait ce réflexe, pas simplement de regarder vers les gens en disant « Mais qui a-t-il ici qui peut nous aider ?» Mais de regarder vers le Seigneur et dire « Prends soin de moi. » Soyons fortifiés par le Seigneur. Profitons-en du fait qu'il est notre berger, si je peux dire ça comme ça. Alors brièvement, je veux juste évoquer quelques situations, scénarios peut-être que vous rencontrez pour terminer, pour voir comment cela peut faire une différence. Tu pars en vacances et c'est un moment de solitude. Peut-être que tu pars tout seul, peut-être que tu vas être entouré par d'autres personnes mais qui n'ont pas ta foi. En tout cas, tu seras coupé de ta communauté en étant en vacances. Ton entourage pourrait même te décourager dans ta foi. Comment est-ce que tu vas tenir pendant que tu es en vacances? Le Seigneur Jésus est ton berger et il t'accompagne. Il va avec toi, il part avec toi. Et tu peux lui faire confiance et tu peux lui parler, même si tu es seul en vacances. Parfois, les visiteurs viennent ici pendant l'été, pendant leurs vacances, et nous voulons les accueillir. Mais pensons aussi, lorsque nous sommes en déplacement, à trouver une communauté de chrétiens, à nous attacher à eux. Et adorer le Seigneur avec eux, ça nous fera du bien, n'est-ce pas? Deuxièmement, peut-être que tu es devant un dilemme, un choix difficile pour ta vie, pour ton avenir. Eh bien, sache que le berger, qui est Jésus, pourra te conduire dans tes choix. Il pourra te donner sa paix. Il pourra te donner la conviction que c'est ce chemin-là qu'il faut suivre. Sache seulement qu'il ne veut pas que tu deviennes à nouveau une brebis égarée. Il ne veut pas ton indépendance. Tu t'en as, il dit, oh, moi je vais faire ma propre vie. Non. Devenir quelqu'un qui est trop occupé ou qui n'a pas de racines, ce n'est pas son projet pour toi. Il veut que tu sois enraciné en lui et donc que tu sois attaché à son Église. Rattache-toi à son Église. Si tu es un pigeon voyageur, si je peux te décrire comme ça. Je te souhaite de trouver une église, de rester attaché à cette église. Et puis, autre situation, peut-être que tu manques de force. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. Mais après tout ce temps de travail, tu as l'impression que le réservoir est vide. Et certainement, tu as besoin de te reposer. Et heureusement qu'il y a les vacances qui viennent, n'est-ce pas? Mais vous savez, quand nous sommes faibles, l'ennemi de nos âmes est aussi réel. Ici, Pierre parle du protecteur de votre âme, mais plus loin, au chapitre 5, il parlera de l'adversaire, votre adversaire, le diable. C'est aussi une réalité. Et si nous sentons faibles et nous sommes démunis, nous devons nous fortifier pour pouvoir lutter contre notre adversaire. Comment faire? Eh bien, Dieu est là. Sachons que le Seigneur Jésus est notre protecteur. Et Dieu ne va pas te perdre. Et donc, si tu as besoin de te reposer, repose-toi sur lui. Repose-toi sur Jésus qui veille sur toi. Et il te couvrira de sa protection spirituelle. Prions ensemble. Oui, Seigneur, nous venons devant toi en toute simplicité, comme des brebis, des moutons. Nous sommes ton troupeau, merci que tu nous aimes. Merci pour cet agneau qui était sans tache et qui a pris notre place. Merci aussi pour ce berger qui est venu donner sa vie pour que nous puissions être à lui. Avec Jésus comme berger, Seigneur, nous sommes en sécurité. Nous te prions, Seigneur, que nous puissions ressentir la paix qui vient de cela, qui découle de cette vérité. Et que nous puissions aussi de jour en jour marcher, rester proche du berger et ne pas s'en éloigner. Que nous puissions nous nourrir de ses paroles, nous savons que tes brebis entendent ta voix. Que nous puissions aussi t'adresser la parole lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous ne savons pas quoi faire ou lorsque nous sommes en difficulté, en détresse. Que nous puissions venir devant toi, sachant que tu accomplis ta promesse de venir secourir les faibles, de prendre soin de nous nourrir. Fais-le, Seigneur, pendant cet été, lorsque nous sommes en vacances, lorsque nous sommes en déplacement, ou que nous restions ici, que nous puissions être fidèles et jouir de la bonne relation que nous avons avec toi. En Jésus-Christ. Amen.